à Dieu, nous pouvons prendre place. Nous allons écouter d'abord un témoignage qui atteste vraiment combien Dieu règne. Hier, on a chanté « L'Éternel règne » et puis on a lu le 1 Chronique 16 qui montrait que Dieu est le premier et le dernier, il maîtrise toutes choses. Et c'est une joie d'être voilà, choisi par ce Dieu-là. Et donc nous allons écouter un témoignage de la vie courante, mais où la puissance de Dieu qui maîtrise tout est manifestée. Voilà, notre sœur va nous parler.
Voilà, en fait, hier, il m'est arrivé donc, une chose magnifique. Magnifique qui, au premier abord, n'était pas prévue pour être magnifique. Mais comme Dieu est bon, et donc voilà, on m'a demandé de témoigner de la gloire de Dieu, donc je vais le faire pour le Seigneur, pas pour moi, mais pour lui. Donc en fait, hier, je suis censée avoir cours, donc j'ai repris les études, donc je suis à la fac. Donc je suis censée commencer à 9h30 jusqu'à 12h30, puis mon cours est annulé, et puis donc je me dis que bah, super, j'ai la matinée pour faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire, donc m'occuper de la maison et tout le reste. Et puis je me suis dit, bon, comme il y a séminaire donc ce soir, je vais aussi préparer à manger. Donc je prépare à manger et puis il est à peu près midi. Et puis donc j'ai cours l'après-midi, donc je commence à 13h30. Donc je me dis que bon, vaut mieux que je le fasse tout de suite, j'aurai pas le temps. Donc je prépare à manger, donc je mets ça dans le four et puis... Puis je laisse la nourriture à chauffer, je mange, je me prépare et puis bah, je sors pour me rendre donc, à mon cours qui est à la fac de droit. Et donc j'arrive et puis je vois l'amphithéâtre qui est vide, donc on est quatre. Donc je m'assois, je me dis que bon, bah, j'ai un peu d'avance, peut-être que les autres vont arriver. Et puis au bout de 5 minutes, il y a une jeune fille qui me dit que bah, le cours a été annulé. Donc je suis étonnée, je me dis encore. On n'a pas cours de la journée, bah tant mieux, je vais rentrer à la maison alors. Et puis quand je rentre à la maison, j'entends le four, et en fait j'avais oublié la nourriture dans le four. Donc ça faisait plus d'une heure et demie que la nourriture était dans le four. Donc bah, je me précipite, je cours dans la cuisine, je vois que bah, dans la cuisine il y a plein de fumée, donc je sors en vitesse la nourriture qui est dans le four, je sors le plat. Le plat est carbonisé, vraiment carbonisé, donc c'est pas du verre, ça n'a pas éclaté, mais il était vraiment carbonisé. Donc je me dis que bon, on a évité le drame, j'habite dans un immeuble, il y a des gens qui vivent à côté de moi. Je me dis que j'aurais pu mettre le feu, qu'il y a des gens qui auraient pu mourir à cause de moi, non pas de ma volonté personnelle, mais... un peu par oubli, j'étais pressée, en fait. J'ai complètement oublié la viande. Et puis je me dis, bon, bah, je vais nettoyer. Et puis, dans sa bonté, donc Dieu est bon, parce que déjà, Dieu avait, à mon avis, sauvé la vie de tout le monde qui était dans l'immeuble à ces moments-là. Mais il a dit, je vais encore montrer que je suis au-delà de ce que l'homme peut penser. J'ai ouvert... Donc, le plat, et en fait, donc c'était une préparation toute faite. Donc, c'est un sachet, en fait, où on met la nourriture dedans directement pour que ça ait une saveur qu'on a choisie en l'achetant. Et en fait, je m'aperçois que la nourriture n'a rien. Donc, le plat est noir et la nourriture est très bonne. Et je l'ai mangée à midi. Elle est très, très bonne. Donc, la nourriture n'a rien. La maison n'a rien. Je n'ai rien. Les voisins n'ont rien. Et quand je réfléchissais tout à l'heure, parce qu'on m'a demandé de témoigner, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Et donc, je pensais, je réfléchissais, et puis Dieu m'a encore montré son amour tout à l'heure en me disant, regarde ce que j'ai fait, Sophie. J'ai renvoyé 600 personnes chez eux pour te dire combien je t'aime. Je voudrais juste dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Que Dieu soit béni.
Voilà, bien aimé, logiquement, elle devrait aller au cours, après le cours, venir au centre. Donc ça veut dire qu'elle serait de retour chez elle peut-être que vers 22 heures. Mais le Seigneur a permis que le cours soit annulé. Et s'il n'y avait pas eu annulation du cours, donc elle aurait fait les cours, mais après les cours, elle ne serait pas rentrée chez elle. Elle serait venue directement ici. Et c'est pour nous dire que Dieu vraiment règne, il maîtrise tout, il est le premier et le dernier. Si nous sommes à lui, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous avons vraiment à lui confier tous nos soucis. Et c'est comme ça que lui, il prouve qu'il est Dieu en s'occupant des soucis les plus complexes et les plus simples à la fois. Donc on a vraiment à lui faire confiance pour tout. C'est ce que notre frère David a dit hier, 1 Chroniques 16, quand on a lu, cherchez continuellement sa face. Donc, soyez en relation avec Dieu continuellement pour tout, que ce soit les choses complexes, pour les choses complexes, que ce soit pour les choses simples. Voilà comment sa puissance a été manifestée. Et Dieu sait pourquoi certains événements nous arrivent, parce qu'il veut nous parler. Maintenant, si on n'écoute pas sa voix, on va mettre ça sur le compte du hasard et on va tourner en rond. Mais si on est vraiment attentif, on sait reconnaître la voix de Dieu. Moi, quand le témoignage m'a été raconté par quelqu'un d'autre, je me suis dit, tiens, ça confirme vraiment ce qu'on a dit hier. En plus, ça s'est passé hier, ça confirme ce qu'on a dit hier. L'Éternel règne. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. On a intérêt à se mettre sous son joug. On a vraiment intérêt à accepter son joug, contrairement à beaucoup de nos prédécesseurs, notamment Adam, qui n'ont pas accepté d'être sous le règne de l'Éternel. Donc hier, nous avions commencé le séminaire en expliquant que beaucoup de choses arrivent aux chrétiens et souvent on se demande est-ce qu'il était vraiment converti, est-ce qu'il n'était pas converti. Certains qui étaient bien engagés, bien nettoyés, entre guillemets, qui avaient arrêté avec le péché, 6 ans, 10 ans plus tard, replongent fortement. Même certains étaient devenus pasteurs, mais ils replongent. Et on a dit souvent l'explication, on l'a cherchée en parlant de conversion, est-ce qu'il était bien converti ou pas. Mais cette étude allait nous montrer que le vrai problème, c'est le règne de Dieu. C'est que beaucoup de gens ne vivent pas avec le règne de Dieu dans leur vie. Et vous vous souvenez de la prière que le Seigneur nous a laissée. Il a dit que nous devons prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est important que Dieu règne. S'il ne règne pas, tôt ou tard, on fera comme Adam. Tôt ou tard, on fera comme les gens de la tour de Babel. Tôt ou tard, c'est pourquoi ne soyons pas surpris. Plutôt, réalisons la vérité de la parole. Quand on entend ce genre de choses-là, on se dit, ah, réellement, Dieu ne règne pas dans la vie de la personne. Vous savez, demain, on va parler de beaucoup plus d'exemples, mais je vais donner un seul exemple du règne de Dieu. Vous vous souvenez de l'exemple du jeune prophète qui a été envoyé par Dieu pour parler à Jéroboam, le roi d'Israël? Et Dieu avait dit à Jéroboam, au prophète, de prophétiser certaines choses à Jéroboam et que lui, il allait être avec lui. Et Dieu a manifesté sa fidélité parce qu'au moment où le roi a voulu manquer de respect au prophète, le bras du roi a été immobilisé. La main est devenue dure, sèche. Et Jéroboam, le prophète a prié, le jeune prophète a prié pour le roi a été guéri. Alors, tout était là pour montrer que c'est Dieu vraiment qui avait parlé à cet homme-là. Mais cependant, Dieu lui avait donné une instruction, sur le chemin de retour, change d'itinéraire et ne mange pas chez quelqu'un. Et le monsieur, au retour, il change d'itinéraire, mais cependant se fait rattraper par un vieux prophète qui jure que c'est Dieu qui l'utilise pour demander au jeune prophète d'aller manger chez lui. Le jeune lui rappelle les instructions de Dieu. Le vieux dit, mais oui, mais moi, un ange est descendu. Il m'a dit que Dieu changeait les instructions. Viens quand même manger chez moi. Alors, c'est peu de choses, le règne de Dieu. Le règne de Dieu, il ne faut pas croire que, voilà, on va te dire d'aller sauter des obstacles ou bien faire des sauts périlleux. Non, c'est juste obéir à ce que Dieu lui-même t'a dit. Mais nous, beaucoup refusent ce règne de Dieu-là. À un certain moment, ils vont dire, vous avez appris l'histoire du bijoutier qui a tué le jeune homme, qui avait fait le braquage. Ils ont volé, ils ont pris des bijoux et les jeunes fouillaient. Il est sorti, il a tiré sur la personne. C'est ça. Ça veut dire que la loi française interdit ça. Mais le monsieur a été emporté par sa colère. Sa colère l'a sorti de la loi française. Et c'est ça le règne de Dieu. Beaucoup de, ça se reconnaît que dans des événements, dans des moments difficiles. Le règne de Dieu, ce n'est pas, bon, il y a des gens qui prient chaque jour, qui lisent la parole, qui vont à l'église. Mais c'est dans les événements difficiles, vous allez vous rendre compte que dans la vie de telle personne, c'est vraiment Dieu qui règne. Voilà. Parce que là, il pouvait faire autre chose, mais il a préféré se laisser dompter, se laisser conduire ou bien souffrir parce que le règne de Dieu est dans sa vie. Ce jeune prophète, c'était son épreuve pour vérifier si vraiment Dieu régnait dans sa vie. Parce qu'on peut se poser la question, mais Dieu est tout puissant, il peut nous protéger. Mais pourquoi il demande au jeune homme de changer d'itinéraire? Pourquoi il demande au jeune homme de ne pas manger chez quelqu'un? Dieu pouvait le protéger de tout poison. Mais pourquoi? C'est des instructions qui font la différence entre celui qui manifeste la puissance et la source. Dieu va nous donner des instructions qui vont faire la différence. Où ça sera connu que c'est lui qui est au-dessus. C'est juste pour ça. Et c'est pour nous préserver parce que si nous ne reconnaissons pas que Dieu est au-dessus, nous allons tomber dans l'orgueil et nous finirons comme Satan. Alors Dieu nous met des embûches. Il crée des circonstances qui vont faire que finalement, nous allons réaliser que nous sommes peut-être les gens qui produisons une certaine puissance, mais la source, c'est quand même Dieu. Nous allons reconnaître cela. Vous imaginez quand vous venez de faire des exploits comme ça, vous avez tendance à croire que vous êtes vous Dieu. Mais Dieu, lui, va donner des instructions qui vont faire la différence. Au moins, en obéissant à ces instructions-là, c'est clair que ce n'est pas toi le chef. C'est Dieu le chef. Et le monsieur a dit au jeune homme, au jeune prophète, viens manger chez moi parce qu'un ange m'est apparu, m'a donné cette instruction-là. Et le jeune prophète a cédé. Beaucoup vont trouver des circonstances atténuantes en disant, ah oui, mais le vieux prophète était malin. Il a usé vraiment d'intelligence, il a usé de ruse. Le jeune prophète n'était pas expérimenté. Non, bien-aimé, le jeune prophète a vu la grandeur de Dieu. Il a bien vu que Dieu l'a accompagné. Vous savez, parler à un roi et paralyser la main d'un roi. Et après prier et la main retrouve son usage. Ça veut dire que la puissance de Dieu est avec toi. Donc Dieu a honoré la première partie. Mais le jeune prophète a été pris par le problème du règne. Il s'est dit, bon, je me permets ça. Après tout, c'est un vieux prophète, c'est un serviteur de Dieu aussi. Au fait, c'est lié au règne de Dieu. C'est lié au fait qu'il n'a plus... Il est devenu une vedette et il s'est permis de faire comme il voulait. Et aujourd'hui, beaucoup se permettent de faire comme ils veulent. Parce que c'est le même péché d'Adam. On ne veut pas être à l'écoute de Dieu, savoir ce que Dieu veut de nous, mais on a des volontés, on a des désirs qu'on veut obliger Dieu à exaucer. Et maintenant, on ne sait plus qui est Dieu dans ce cas-là. C'est important de comprendre la source profonde des choses. Quand on comprend la source profonde, on sait guérir une fois pour toutes. Notre problème principal en tant qu'humain, c'est le refus de Dieu comme chef. Il faut comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on tournera en rond. On va croire que notre problème, c'est la cigarette. On va croire que notre problème, c'est le mensonge. Notre problème, c'est telle chose. Mais toutes ces choses, Dieu peut résoudre ça. Donc,
Si on peut, nous, se soumettre à Dieu, il résout ces choses-là. Alors pourquoi ces choses-là ne sont pas résolues ? Problème de l'orgueil. L'orgueil, c'est le refus de dire, moi je me trompe, c'est Dieu qui a raison. Et c'est cette affaire-là, le sujet de notre séminaire. Donc nous avions expliqué que la rébellion a commencé par Satan. Satan a voulu prendre la place de Dieu parce qu'il avait été créé avec beaucoup de beauté et d'éclat. Ça n'a pas marché. Il a réuni une multitude d'anges. Donc dans Apocalypse 12, on en parle. Une multitude d'anges pour ce qu'on appelle aujourd'hui les démons, pour faire front commun et attaquer Dieu. Ça n'a pas toujours marché. Ensuite, il a séduit l'homme. Et l'homme aussi a été pris dans le même piège, vouloir être comme Dieu, l'égal de Dieu. Parce que comme le jeune prophète, Adam avait toute la puissance. Plus que même le jeune prophète, Adam pouvait gérer les animaux, pouvait gérer toute la terre. Mais il y avait une différence entre lui et Dieu. Il n'avait pas le droit de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cette différence, c'est ce point-là qui fait la différence entre le chef et l'instrument. De sorte que même si l'instrument a les mêmes pouvoirs que le chef, il y a quand même une différence. Mais Adam a voulu s'extraire de cette différence-là et être comme Dieu. Et il a mal fini. Rejeté du jardin d'Éden, lui et les humains aussi, à un certain moment, ils se sont dit, on va faire front commun puisqu'on est nombreux, on fait front commun, on s'attaque à Dieu. C'est ça l'histoire de la tour de Babel. Ils ont dit, nous allons nous donner un nom. Ça veut dire beaucoup de choses. Au fait, nous allons nous faire un Dieu, nous donner une identité. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Comment des humains qui naissent physiologiquement avec une destination, soit femme, soit homme, peuvent à un moment de leur vie dire « Je n'étais pas né homme, en réalité je suis femme, mais voilà. » Ça veut dire que c'est ça la thèse de la tour de Babel. Nous allons nous faire un nom. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un nom, il est déjà homme, mais il veut se faire femme. Il veut se faire une identité. Donc les humains ont voulu faire leur propre logique de l'univers, leur propre logique de la vie, donc se faire leur propre Dieu. Et Dieu les a confondus en créant plusieurs langues. Mais en faisant cela, il se fait plusieurs peuples. Et ils ont eu toujours cette envie-là de, en peuple, en nombre, se faire leur propre nom, leur propre Dieu, mais ce qui fait la pluralité des dieux, des faux dieux. C'est ce qu'on a expliqué. Et cette pluralité de faux dieux donc, agissait dans les peuples. Et à un certain moment, puisque l'homme, du moment qu'il a péché, il a connu des limites, mais à un certain moment, ces limites sont devenues aussi des sujets de soif pour créer des dieux. Donc, il fallait qu'il mange, il fallait qu'il ait un bon climat, il fallait qu'il récolte, il fallait qu'il soit guéri des maladies, il fallait qu'il fasse de bons voyages. Alors, dans tout ça, il s'est créé de Dieu qui répondait à tout ça. Il fallait qu'il ait des enfants, il fallait qu'il se marie, il fallait créer de Dieu qui répondait à tout cela. Les dieux des peuples sont devenus des dieux aussi pourvoyeurs, des dieux qui guérissent. Et d'où la naissance de ce qu'on appelle les religions. Mais ces religions-là étaient cantonnées au peuple, hein, au peuple. Chaque peuple avait en quelque sorte son Dieu, sa religion, ou bien ses dieux et sa religion, chaque peuple. Et c'est ainsi que Dieu, pendant que les peuples se faisaient leur Dieu et leur religion, Dieu préparait aussi son peuple. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, on n'entend pas parler des religions des autres. Parce que c'est Dieu qui est en train de préparer son peuple, et dans Exode, avec la loi, ce n'est que dans Exode que Dieu ayant préparé son peuple, libéré de l'Égypte et donné la loi, Dieu amène son peuple en confrontation maintenant avec les autres peuples pour montrer que c'est lui le véritable Dieu, qu'on doit revenir à lui. C'est ce qui s'est passé dans le passé. Tout ça est dû à quoi ? Il faut qu'on se rappelle toujours du sujet principal. Tout ça est dû au fait que l'homme n'a pas voulu le règne de Dieu dans sa vie, alors que c'est Dieu qui l'a créé. Voilà. Tout ça est dû à quoi ? À cela, et ça prend des formes diverses avec le temps. Et c'est ainsi que pendant longtemps, les nations ont évolué avec leur Dieu. Pendant longtemps, chaque nation avait son Dieu, surtout que les langues étaient différentes. Alors Dieu a longtemps utilisé Israël pour les nations, pour les peuples. Sans oublier que Dieu, parfois, singulièrement, pouvait toucher un individu, comme il a fait avec Naaman, avec certaines personnes. Mais, en général, c'était Israël face aux autres nations. Mais il y a un tournant dans tout cela. Le tournant, c'est ce que Galates 4:4 nous explique. Je crois que c'est Galates 4:4. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Voilà, quand les temps... Pourquoi c'est quel temps-là qui devait s'accomplir? Quand les temps furent accomplis, Galates, chapitre 4, verset 4. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Quand les temps ont été accomplis. C'est quel temps? Comme nous venons d'expliquer, Dieu voulait toujours sauver l'humanité. Et l'humanité était toujours perturbée par la séparation d'avec Dieu, parce qu'il est écrit dans Ecclésiaste 3:11, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans tout homme. Mais les humains fonctionnaient par peuple. Tu nais dans un peuple, tu hérites des dieux de ce peuple-là. Au fait, les humains n'avaient pas encore... l'individualisme qu'on leur connaît aujourd'hui. Donc l'homme ne raisonnait pas seul, il raisonnait en peuple. C'est pourquoi Dieu aussi s'est révélé à lui par un peuple qu'on appelle Israël, en attendant de créer un autre peuple qu'on va appeler l'Église. Mais à cette époque-là, c'était Israël. Mais il est venu un empire qu'on appelle l'Empire romain. Quand l'Empire romain a dominé le monde, l'Empire romain en colonisant les peuples, leur a laissé une certaine autonomie dans beaucoup de choses, notamment l'autonomie religieuse. Je crois que vous, les lecteurs de la Bible, vous savez réaliser ça quand vous lisez la Bible. Vous voyez bien qu'il y a Ponce Pilate, mais en même temps, il y a les prêtres, il y a les pharisiens qui dirigent les Juifs. Donc il y a comme deux autorités. Il y avait Ponce Pilate, l'autorité de l'État, mais il y avait en même temps des autorités religieuses qui exerçaient aussi une certaine autorité étatique, voilà, juridique. Donc les Romains ont été des bons colons, entre guillemets, parce qu'ils avaient aussi des mauvais côtés. Ils ont été des bons colons dans le sens où ils laissaient quand même le peuple qu'ils colonisaient avec une certaine autonomie juridique et religieuse. Donc on vous laisse avec vos dieux, vous pouvez continuer à les célébrer, vous pouvez continuer à faire les choses. Et les Romains ont fait quelque chose que les autres n'avaient pas fait. Ils ont construit des routes entre les colonies. Ils ont construit des grandes routes, ils ont permis de faire circuler aussi la langue grecque. Les Grecs avaient déjà fait des conquêtes, le grec était déjà répandu, mais les Romains ont permis encore que cette langue-là puisse être répandue fortement. Mis à part leur propre langue, mais la langue grecque a été répandue, puisque la plupart des savants, c'était les savants grecs qui avaient des disciples romains. Et puis, voilà. Troisièmement, les Romains, ils ont fait ce qu'on appelle la Pax Romana, c'est-à-dire que pendant 200 ans, il y a eu la paix dans le monde. Et vous allez vous rendre compte que le problème entre les Romains et Jésus, c'était que Jésus était un homme de trouble pour les Romains. Donc Ponce Pilate ne s'est pas intéressé à ce que Jésus disait. Son problème à Ponce Pilate, c'est que la présence de Jésus crée des troubles. Donc les Romains ne voulaient pas des troubles. Ils considéraient que, au fait, ils voulaient créer une sorte de ce qu'on appelle aujourd'hui le monde unique. Donc ils voulaient être les maîtres du monde et créer un monde où tout le monde est en communication et qui est la paix. Donc, ils voulaient créer une sorte de paradis sur terre. Et donc, là où il y avait les troubles, ils agissaient fortement. Ils détruisaient, ils tuaient, ils massacraient. Donc, ils ne voulaient pas des troubles. C'est pourquoi Jésus les dérangeait, parce que Jésus créait le trouble. Parce que les Juifs ne supportaient pas Jésus et ça créait des troubles. Alors c'est pourquoi eux, ils sont intervenus pour arrêter les troubles. Même souvenez-vous, les lecteurs de la Bible, quand vous lisez l'histoire de Paul, les Romains interviennent à chaque fois parce qu'il y a des troubles. Parce que Paul suscite des troubles à chaque fois qu'il prêche. Donc les Juifs ne sont pas contents, ça fait des émeutes. C'est là que les capitaines romains interviennent, l'État intervient. Parce que donc les Romains ont créé ce qu'on appelle la Pax Romana. Donc pendant un temps, il y a eu une paix. Ils voulaient créer une sorte de monde parfait. Et ça, quand on dit que le temps fut accompli, donc il y a tout ça. Il y a eu un temps où l'évangile pouvait venir et ça allait circuler maintenant. Donc il fallait que ce temps-là soit préparé. Autre chose, toujours pour confirmer ce qui est écrit, le temps fut accompli, c'est que autrefois, comme nous vous l'avions dit, les religions, c'était des religions de peuple, de peuple, de peuple. Mais avec les travail des colonies successives, des invasions successives, des Babyloniens, des Perses, des Grecs, puis des Romains, les peuples se sont mélangés. Et les religions commençaient à se tricher. Finalement, les religions n'ont plus été que des religions de peuple, mais elles ont créé leur propre, comment dire, leur propre indépendance. Donc on pouvait être, par exemple, grec, mais croire en la religion des Juifs. C'était plus quelque chose d'étrange. Donc le mélange a fait que la religion n'était pas que liée à un peuple, mais avait sa propre théorie. Donc on peut donner quelques points sur la religion. Une religion, c'était quoi? C'était une théorie avec... une certaine logique de la création, il y a une histoire de la création, une réponse au problème de l'éternité. Donc chaque religion avait sa réponse en ce qui concerne la mort, le problème de la mort. Et une religion était là aussi pour donner certaines règles de vie. Et troisièmement, avait ses prêtres, quatrièmement avait ses prêtres. Donc chaque religion avait ses médiateurs entre les dieux et les humains. Il y avait des prêtres, des médiateurs. Et chaque religion aussi avait des réponses aux besoins de l'homme. Donc pour la fécondité, on va aller voir telle déesse. Pour la force, on va aller voir tel dieu. Donc chaque religion avait son système de réponse aux besoins de l'homme. Donc c'est comme ça que les religions se sont constituées. Parce que petit à petit, ce mélange-là a fait que il n'y a pas que eu la logique de peuple a commencé à se filtrer petit à petit. Donc, on pouvait s'échanger les idées. Et il y a eu comme une sorte de paix, entre guillemets, entre les religions. Il y avait des religions de toutes sortes qui se mélangeaient. Et c'est en ce moment, et il n'y avait pas que eu cela, il y avait aussi la philosophie. Donc, à un certain moment, la philosophie, le fait de penser... a amené l'homme à commencer à réfléchir sur son sort par lui-même. Parce qu'autrefois, l'homme naissait dans un peuple et acceptait les théories de son peuple et vivait ses théories de ce peuple comme ça. Mais avec les philosophes, les gens ont commencé à réfléchir sur leur avenir par eux-mêmes, pas forcément selon la logique de leur peuple. Et donc, l'individu commençait à exister. Or, avant, l'individu n'existait pas. C'était le groupe, en quelque sorte, qui existait. L'individu était un peu... endormi. Mais avec les Romains, mais avec le temps, la progression du temps, l'individu a commencé à exister avec les philosophes, avec les diverses religions qui se mélangeaient, tout ça. L'individu a commencé à acquérir son importance. Et c'était le moment où l'évangile devait venir. Parce que l'évangile venait pour s'adresser à l'homme. Ensuite au groupe, mais d'abord l'homme. C'est l'homme qui est visé. C'est le cœur de l'homme qui est visé. Parce que vous comprenez bien que Dieu, dans sa toute-puissance, connaissait quel était le problème de l'humanité. Le problème, ce n'était pas les peuples, le problème, c'était l'homme. On en est arrivé au peuple parce que l'homme a trouvé la force en se regroupant. Mais en réalité, c'est lui l'homme qui a un problème. Qui s'est rébellé face à Dieu. Donc Dieu, la vérité totale qu'il devait envoyer à l'humanité, devait s'adresser à l'homme. Parce que c'était l'homme le problème. Donc à l'origine, il n'y avait qu'un homme. Donc c'était l'homme le problème. Alors L'évangile venait pour vivre, pour parler à l'homme. Mais si l'évangile était venu au temps où le peuple était fermé, n'avait pas de langue commune, parce que les Romains, ce qu'ils ont favorisé aussi, c'est comme je vous ai dit, le grec et le latin, surtout le grec qui est devenu la langue commune de tout le monde. Donc on pouvait prêcher en grec partout. Donc un des ouvrages très importants qui a été réalisé, c'est la Bible qu'on appelle la Bible, les 70. Ça a été fait à l'an 70, plus de 70 ans avant Jésus-Christ. Cette Bible-là, en langue grecque, a favorisé l'expansion, la propagation plutôt, de la doctrine des Juifs. Dans le monde entier, vous vous souvenez, dans un texte, il y a les apôtres qui donnent, oui, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, ils expliquent que dans le monde entier, les gens connaissent la loi de Moïse. Comment et pourquoi? Parce que la Bible de 70 avait déjà fait son travail, et puis il y avait dans le monde entier des Juifs partout. Donc les religions étaient un peu entremêlées. Et c'est en ce moment-là que l'évangile pouvait venir pour parler à l'individu. Donc Dieu a préparé les choses comme il faut. Donc l'évangile est venu au bon moment, au moment où les transports étaient facilités par les Romains. Il y avait une sorte de protection dans les routes. Donc les gens pouvaient voyager. Vous êtes témoin vous-même en lisant la Bible des voyages de Paul. Tout cela est rendu possible par les Romains. Les Romains ont créé un état qui faisait qu'on pouvait voyager vraiment, tranquillement, faire des distances. Et c'est comme ça que l'évangile est venu. Donc, est venu dans un temps où ça pouvait vraiment se répandre. C'est venu dans un temps où Dieu vraiment pouvait parler à l'individu. C'est comme ça que nous nous retrouvons à la venue de Jésus. Donc là, le but étant que chacun retourne au véritable Dieu. Qui est ce véritable Dieu? Le Dieu créateur. C'est pourquoi Jésus-Christ a tout fait pour montrer que c'était le Dieu créateur qui était seul le véritable Dieu. Par tous ces miracles, les miracles de Jésus visaient à montrer que celui qui peut faire ces miracles est la même personne que celui qui a créé les choses. Parce que c'était des miracles tellement extraordinaires sur la création, sur la nature, sur les intempéries, sur les humains, sur leur corps, sur la multiplication des objets. Tout ça était des miracles pour dire ceci: le Créateur est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et donc Jésus est passé par le peuple saint, le peuple de Dieu, pour être le messager de toute l'humanité, disant à chaque homme de se repentir et de revenir au Dieu créateur. Souvenez-vous de la première prédication, de la prédication de Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 17, à Athènes. Quand il a commencé à prêcher, il a dit: le Dieu véritable, c'est celui qui a fait toutes choses. Donc il ne peut pas habiter dans des temples faits de mains d'hommes, puisque c'est lui qui a tout créé. Donc puisque c'est lui qui a tout créé, chaque peuple devrait, chaque humain devrait se soumettre à lui. C'était ça l'argument de Paul le jour où il prêchait dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Le Dieu créateur, c'est le véritable Dieu. Et il a envoyé son Fils. Et par la résurrection de Jésus, il montre que c'est lui le véritable Dieu, parce qu'il a vaincu ce que personne n'a pu vaincre, la mort. Parce que je vous ai dit, la mort faisait partie des problèmes, des religions. Je récapitule sur les religions. Les religions avaient leur histoire de la création. Et l'évangile vient donner la vraie version. C'est que c'est Dieu qui a tout créé en utilisant sa parole, son Fils. L'évangile, les religions avaient un autre problème, c'est résoudre le problème de l'éternité. Vous savez, pendant 1000 ans, le catholicisme a tenu les gens à cause du problème de l'éternité. Vous connaissez les histoires de messe de Requiem. Donc les gens avaient peur de l'enfer. Et l'évangile amène la réponse. Concernant l'éternité auprès de Dieu est possible en passant par le pardon en Jésus-Christ. Réponse simple. Un des problèmes de religion, c'était les règles de vie. Les règles de vie de tous les jours. L'évangile amène une réponse simple. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la réponse de l'évangile au fait de vivre une vie correcte, c'est se laisser naître de nouveau, créer de nouveau par Jésus-Christ. Un des problèmes encore des religions, c'était les médiateurs, les prêtres. L'évangile apporte une réponse très simple. C'est Jésus le médiateur. 1 Timothée 2,4. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc l'évangile est venu apporter la réponse à toutes les questions que suscitaient les religions qui amenaient les hommes à se perdre et à aller vers les faux dieux. L'évangile a apporté des réponses claires et nettes là-dessus, sur le problème de besoin de l'homme. L'évangile apporte la réponse claire et nette. Cherchez d'abord le royaume des cieux, Matthieu 6, 33, et vous aurez le reste. Réponse simple et claire. Tu cherches le royaume des cieux, tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Dans tout. Voilà comment Dieu profite des temps où il y a eu cette action romaine et la maturité des nations pour recevoir l'évangile. Il envoie l'évangile en ce moment-là. Et c'est ainsi que ça nous est arrivé jusqu'au aujourd'hui. Et finalement, les religions, petit à petit, ont perdu, à cause de l'évangile, je parle des autres religions, ont perdu, à cause de l'évangile, leur force concernant la solution à des problèmes éternels. Vous voyez, par exemple, concernant comment aller au ciel, petit à petit, les religions ont perdu leur force. Et elles n'ont gardé de force qu'une force politique, une force économique, donc répondant aux besoins de l'homme. C'est l'époque que nous vivons aujourd'hui où la religion n'est plus tellement la chose qui t'amène dans l'éternité, mais qui résout ton problème ici sur terre. Parce que l'évangile donne tellement des réponses claires, puissantes sur l'éternité, qu'il n'a presque plus d'adversaires. Et finalement, les religions, petit à petit, se sont dirigées vers la vie terrestre, répondre aux besoins de la terre. Et c'est ainsi que, avec le progrès technologique croissant, l'homme a commencé à faire des réponses à ses besoins, la vraie religion finalement. Et on connaît les besoins de l'homme, hein? La gloire, le succès, l'argent, les richesses, le mariage, les enfants, la guerre aussi, la force. Alors tous ces besoins-là sont finalement pas à pas devenu le moteur des humains, non plus vraiment le souci d'éternité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous retrouvons avec des gens qui sont dans le péché. Et la raison principale, c'est qu'ils ont fait de certaines choses leur Dieu, soit l'argent, soit le nombre. Ils cherchent le nombre, il y a des pasteurs qui cherchent le nombre. C'est devenu leur raison d'exister, le nombre. Au lieu de chercher Dieu, ils cherchent le nombre. Il y en a qui cherchent le succès, c'est devenu leur Dieu, la gloire. Il y en a, leurs enfants sont devenus leur Dieu. D'autres encore, leur jeunesse est devenue leur Dieu. Et encore d'autres, les traditions de la famille, les coutumes sont devenues leur Dieu. La consommation sous toutes ses formes, c'est devenu leur Dieu. Que ce soit voiture, que ce soit vêtements, que ce soit le sexe, c'est devenu leur Dieu. Parce que l'homme, petit à petit, a commencé à ignorer les besoins de l'éternité. Il est maintenant dans les besoins de la terre. Il n'y a pas que l'action du christianisme, il y a aussi l'action des philosophies athéistes qui nient l'existence de Dieu, qui ont amené petit à petit l'homme à s'intéresser, à moins s'intéresser à l'éternité, mais à s'intéresser aux choses de la terre. c'est le temps que nous sommes en train de vivre, c'est l'évolution que nous avons vécue. Nous sommes passés des religions de peuple à des religions, je dirais, générales, où tout le monde pouvait entrer. Et finalement, ces religions générales, puisqu'elles n'ont pas une doctrine de salut vraiment efficace concernant l'éternité, elles se sont réduites petit à petit à des religions de consommation. Et où on a quand même une certaine, vous savez, l'homme a quand même une certaine soif de se brancher à Dieu. Donc on lui donne une certaine réponse à ça aussi. On peut faire, les gens s'asseyent autour d'une table, ils invoquent les esprits, ils veulent se brancher à Dieu d'une manière ou d'une autre, mais ils ne veulent pas vraiment se poser la question fondamentale, qu'est-ce qu'il me faut pour aller au ciel ? Ils ne veulent pas se poser cette question. Ils veulent juste des activités qui vont leur donner une sensation de se brancher à Dieu. Parce qu'ils ont quand même cette soif-là en eux. Parce que comme on a lu dans Ecclésiastes 3:11, Dieu a mis les pensées de l'éternité dans l'homme. Cette soif-là doit être assouvie. C'est pourquoi les religions vont chercher des activités qui assouvissent cette soif-là d'une certaine manière, mais sans pour autant vraiment le faire totalement. Et nous en arrivons donc à l'expression de ce que nous vivons aujourd'hui, l'individualisme, où les hommes, maintenant, cherchent quel est le Dieu qui va satisfaire leurs besoins. Leurs besoins de succès, leurs besoins de gloire, leurs besoins d'enfants, leurs besoins de ceci et de cela. Finalement, c'est eux qui sont Dieu parce qu'ils ont des exigences. C'est eux qui deviennent Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui et la réponse de Dieu par rapport à tout ça, c'est toujours l'évangile. C'est pour dire que tous ces besoins-là ne finiront jamais. Ne finiront jamais. Les gens auront toujours besoin d'argent, auront besoin toujours de succès, auront toujours besoin des choses. Mais ils évitent ce qui leur donne une solution totale, c'est le retour à Dieu. Où Dieu va les combler totalement. Parce que Dieu, c'est lui la source de tout. L'évangile reste la solution. Parce que l'évangile nous montre clairement que l'homme n'est que poussière et retournera poussière. L'évangile nous montre clairement que Jésus seul a vaincu la mort, seul a fait des miracles que seul le Créateur pouvait accomplir. Et à partir de là, nous savons vers qui nous tourner pour avoir un salut total, pas juste un salut ticket au ciel, mais un salut total. Le ticket pour le ciel et le bonheur sur terre par la puissance de celui par qui tout est accompli à la croix. Jésus a donné sa vie à la croix afin que nous puissions recevoir le salut. L'évangile demeure la réponse, mais les gens ne veulent pas parce que plus le temps passe, plus ils sont attachés à aux choses de la terre. Et donc nous lisons dans l'épître à Timothée. Chapitre 4. Non, deuxième Timothée. Deuxième Timothée. Excusez-moi, chapitre 3, 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce que nous disent les Écritures. Voilà les derniers temps que nous vivons, où les hommes sont devenus égoïstes. Donc les religions en
en s'abaissant, elles sont devenues des religions, de règles de vie de tous les jours, d'exaucement, de désirs des humains. Et ça a rendu encore davantage les gens. La technologie agissant, les gens sont devenus individualistes. Puisqu'avec la technologie, on commence à avoir la possibilité d'obtenir ce qu'on veut. Et je ne suis pas contre cela, mais le système démocratique aussi contribue à cela, où l'homme retrouve, l'individu retrouve une certaine importance par son billet de vote. Nous vivons un temps où l'homme commence à avoir plus d'importance que le groupe. Donc un groupe d'hommes homosexuels va décider sur les lois pour tout le monde, mais ils sont minoritaires. Donc l'individu commence à avoir beaucoup d'importance. Et c'est ce qui est dit, les hommes seront égoïstes. Égoïstes. J'ai assisté un jour, l'année passée, à la rentrée de mon fils au collège, il y a une dame, alors on expliquait qu'en sixième, ça sera l'allemand et l'anglais. Mais la dame voulait qu'on fasse l'espagnol parce que son fils aime l'espagnol. Attendez, donc, tout un collège va changer son programme juste pour... Alors, moi, je me disais, mais ça me... Est-ce que je suis fou ou je suis en train d'entendre? Donc, la dame... Ah, mais mon fils aime l'espagnol. Mais alors... donc, s'il aime le chinois, donc on va donner le chinois, là. Mais elle disait ça avec une tranquillité. C'est comme si on pouvait changer le programme du collège pour son fils. Donc les hommes sont devenus tellement égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Fanfarons, orgueilleux, ingrats, blasphémateurs. Parce que l'individualisme est devenu très fort. L'homme ne pense qu'à lui. Donc il se permet tout. Il commence à se diviniser vraiment. La technologie aidant, donnant la capacité d'atteindre tout ce qu'on veut. Surtout avec Internet, on fait des courses par Internet. Alors tout... L'homme devient très, très important et il ne pense qu'à lui. Il commence à se diviniser. Demain, nous parlerons de cette divinisation à l'extrême. Mais aujourd'hui, nous introduisons. Et c'est ça l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, encore aujourd'hui, nous avons davantage besoin de dire clairement que l'égoïsme va tuer. L'égoïsme n'amène à rien. Nous avons besoin encore de dire fortement que le seul salut que peut avoir l'homme, c'est de venir à Jésus-Christ, qui va le connecter au Père éternel, et il va entrer dans le vrai bonheur en étant créant de nouveau, en étant créé de nouveau, et en participant à la vie du ciel, dès ici sur terre. Nous avons encore fortement besoin d'annoncer l'évangile clairement, sans compromis. Parce que même dans les milieux chrétiens, nous connaissons l'évangile de la prospérité. Donc, la religion s'est adaptée à ce que l'homme veut. C'est ça la réalité. Parce que ça arrange l'homme. Allez voir certains, ils sont musulmans, tout ça, vous croyez, c'est pas pourquoi. Bon, ça les arrange aussi. Ils ont la possibilité d'avoir 4 femmes. Il y a des arrangements. Il y a des choses qui arrangent l'homme, mais on ne s'en rend pas compte. Il y en a aussi, ça les arrange d'être dans une religion majoritaire. Tu es dans un pays où tout le monde est musulman, ça t'arrange d'être musulman, puisque tu ne seras pas dérangé. L'homme fait ce qui l'arrange au fait de ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'évangile, justement, a été envoyé pour parler à l'homme. Donc nous ne pouvons pas nous décourager. Parce que l'évangile a été conçu pour parler au cœur de l'homme. Donc nous sommes les personnes choisies pour apporter l'évangile. Mais maintenant, nous devons être dans le discernement. Comprendre que le vrai problème, c'est le refus de Dieu. Le refus du règne de Dieu. Donc on peut voir un frère, bien-aimé, on peut voir un frère. Moi, je me souviens, notre prédicateur au Maroc. C'était notre prédicateur. Mais quand je me suis converti,
J'ai eu l'impression que moi, j'avais quelque chose que lui n'avait pas. Même s'il nous prêchait la parole, mais il n'était pas prêt à sacrifier sa vie pour nous prêcher cette parole-là. Son objectif à lui, c'était d'aller continuer ses études ailleurs. Mais je lui expliquais, mais si tu pars, qui va s'occuper de nous? Mais son objectif, c'était ailleurs. C'est là que j'ai compris c'est quoi quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est converti. C'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui. C'est Dieu qui règne dans sa vie. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas quelqu'un qui va se plaindre à tout moment. C'est quelqu'un qui vit la vie que Dieu a destinée pour lui. Un point, c'est tout. Parce qu'il a compris que l'Éternel règne. C'est lui le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Moi qui ne cherchais même pas à voyager, j'ai fini par miracle à voyager. Lui, il était encore resté. Et c'est moi qui ai fait des démarches pour faciliter sa sortie. J'ai compris comment Dieu était tout puissant. Cherchez d'abord le royaume des cieux, vous aurez le reste. Mais j'ai réalisé comment on pouvait être à côté parce que le règne de Dieu n'était pas sur notre vie. Parce que quand le règne de Dieu est sur notre vie, c'est Dieu qui est en priorité. Il n'y a même pas de discussion. On a ça en nous. Vous savez, David venait de finir de construire sa maison et c'était logique en tant que roi. Il fallait qu'il ait une maison de roi. Mais dès qu'il finit de construire cette maison, on ne dit même pas 6 mois après, dès que sa maison finit, David n'est plus bien. Il est triste. Il dit, mais comment moi, je peux habiter une si belle maison alors que l'arche de l'Alliance, qui représente la présence de Dieu, habite dans une tente? Voilà le véritable serviteur de Dieu. Celui en qui Dieu règne. Celui qui a vraiment compris que Dieu est Dieu. C'est dans les psaumes qu'on répète, l'Éternel règne, l'Éternel règne. C'est des exemples comme ça qui nous montrent chez qui Dieu règne, chez qui Dieu ne règne pas. David pouvait tuer Saül parce que Saül cherchait à le tuer. Il dit, je ne le fais pas. Pourtant, il avait la possibilité, il était à ses pieds. Mais il a dit, je ne le fais pas parce que ça va déplaire à Dieu. Mais qui n'aurait pas profité de cette occasion-là pour tuer son ennemi? Vous voyez, cet homme-là a tué le voleur qui avait déjà fait demi-tour, qui ne cherchait plus à lui faire du mal. Mais David, c'était l'inverse. Saül cherchait à le tuer, mais lui, il a la possibilité de tuer Saül, il ne le fait pas, parce qu'il craignait Dieu. C'est des gens comme ça en qui Dieu régnait. Et aujourd'hui encore, Dieu nous rappelle que l'individualisme qu'on voit là, l'amour pour l'argent, l'amour pour les richesses, l'amour pour les vacances, l'amour pour tout ça, mais ces choses-là ont pour source la rébellion originelle. Ont pour source le fait que l'homme a refusé de dire « c'est Dieu mon chef, je le suis ». Voilà, c'est ça la source de tout. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous appelle à revenir à lui, à le laisser prendre le contrôle total. Nous allons prier avant le temps de questions et réponses, que chacun reconnaisse que Dieu seul est Dieu. Nous lisons pour clôturer Psaume 46 au verset 10 ou 11. Psaume 46. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Voilà. Arrêtons d'évoluer par nous-mêmes. Arrêtons. C'est Dieu qui est Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Arrêtons avec l'individualisme. Arrêtons de décider comme Jacques a dit, je ferai ceci, je ferai cela. Si Dieu le veut, voilà ce que la Bible nous recommande. Dieu veut un peuple nouveau, ce peuple qui va participer à l'enlèvement. La fin est proche.
Et nous sommes en train de préparer ce peuple. Il faut que le règne de Dieu revienne dans le cœur de chaque chrétien. Il faut que l'arche de l'Alliance revienne à sa place. Ainsi, nous célébrerons notre Seigneur comme il faut. Comme David, lorsqu'il a ramené l'arche de l'Alliance à sa place. Amen. Seigneur, merci de nous aider à faire ta volonté dans le nom de Jésus-Christ, à accepter que toi seul règnes, toi seul es Dieu. Merci Seigneur de nous aider à céder, à capituler, que nous puissions pour toutes choses chercher ta face. Comme notre frère David le dit dans 1 Chronique 16, cherchez continuellement sa face. Que nous te donnions la première place. Que nous puissions obéir au commandement que tu as donné au jeune homme riche. Vends tous tes biens et suis-moi. Que nous vendions notre honneur, notre moi, nos biens, ce qui fait notre fierté pour te suivre. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous laissons la place aux questions, s'il y en a.
J'aimerais savoir pourquoi, comment un chrétien peut arriver à rivaliser avec Dieu, parce que en tant que chrétien, on côtoie le Seigneur tous les jours. Comment est-ce qu'à un moment, on peut avoir cette rivalité avec lui?
Lorsqu'on commence à contester ce que Dieu permet dans notre vie, c'est déjà la rivalité avec lui. Donc Dieu permet des choses dans notre vie, on conteste, on dit que, on manifeste un comportement qui montre que Dieu se tromperait ou qu'on n'est pas d'accord. Alors que Romains 8, 28 dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous, on conteste par notre comportement, par notre tristesse, par notre colère. Donc ça veut dire que nous sommes en train de dire que nous, on aurait mieux fait que lui. Et donc finalement, on rivalise. Donc on est plus fort que lui. On devient Dieu. Il n'y a pas que ça. Par le refus de l'autorité divine. Comme on l'a dit dans une des prédications précédemment, l'autorité divine peut se manifester par des humains. Et on peut refuser l'autorité de Dieu parce que nous ne voulons pas en quelque sorte nous soumettre à un humain, alors que ce n'est pas l'humain qui est notre chef, c'est Dieu. Donc tous, il y a plusieurs exemples qui montrent la rivalité avec Dieu. Et on a une sérieuse rivalité, surtout quand on conteste ce qui est écrit. On peut toujours ne pas comprendre ce qui est écrit, mais de là à contester, c'est tout un fossé, il faut faire attention. Donc là, c'est vraiment une rivalité directe. Nous connaissons le monsieur riche qui était en enfer, quand Abraham lui a dit, mais tes frères ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. L'homme a dit, non, s'ils écoutent quelqu'un qui est ressuscité des morts, là, ils se convertiront. Donc cet homme a contesté le fait que la parole suffisait pour sauver. Donc il a contesté la parole de Dieu en direct. Là, c'est la plus grande rébellion qu'on puisse faire. Oui.
Hier, on a dit que lorsqu'on voyait un chrétien qu'on croyait pourtant affermi retourner dans le péché, c'était un signe que Dieu ne régnait pas dans sa vie. Mais lorsqu'on voit un groupe de chrétiens que cela touche, plusieurs personnes d'une assemblée qu'on croyait pourtant affermie aussi, retourner dans le péché, et ça en un court laps de temps, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Enfin, je veux dire, quand c'est pas juste une personne, mais c'est un groupe en particulier, et dans un court laps de temps.
Oui, mais c'est la même déduction, parce que dans Jean, au chapitre 6, Jésus dit qu'il faut le manger. Les gens disent, oh, comment on peut manger un humain? Il faut me manger. Si on veut avoir le royaume de Dieu, il faut me manger. Qu'est-ce qui s'est passé? 70 disciples l'ont fui. Donc là, c'est vraiment un court laps de temps. Hein? 70. Et il n'est resté que les 12 là. Il dit, mais pourquoi vous restez? Parce que nous croyons que tu as les paroles de la vie éternelle.
Donc Dieu, dans la progression, c'est pourquoi quand on est dans une église, hein, le départ de quelqu'un n'est pas forcément mauvais. Dieu aussi fait le nettoyage pour démontrer qui était dans son règne ou pas. Pas forcément pour perdre les gens, mais pour leur montrer leur état, pour qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments, c'est tout. Dieu veut sauver. Tant qu'on est vivant, Dieu veut sauver. Peu importe ce qui nous arrive. Il peut même nous arriver un accident, mais c'est pour le salut. Ce n'est jamais pour punir. Parce que la punition, ça sera au jugement dernier. La véritable punition. Mais aujourd'hui, quand Dieu nous châtie, c'est vraiment dans son amour, quoi. C'est pour nous sauver. Et donc, c'est possible. Moi, les églises sont comme aussi des mouvements à succès. Dans une église, il y a des postes à succès. Il y a le chant. On peut avoir une église avec une belle salle. On peut avoir une église renommée dans un pays. Donc, tout ça, ce sont des moyens de valorisation aussi des membres de cette église-là. Et beaucoup peuvent rejoindre les églises dans cet esprit-là de valorisation comme une sorte de mode. Mais avec le temps, la vérité de la parole de Dieu, la pression du Saint-Esprit va faire qu'ils ne vont pas supporter, ils vont s'en aller.
Oui, mais moi je croyais, enfin, j'avais peut-être une autre thèse, c'était peut-être aussi l'éventualité d'une attaque, parce que quand on parle avec ces personnes-là, enfin, je veux dire, à des endroits différents, à des moments différents, ils s'entendent tous sur la même chose. C'est comme s'ils s'étaient concertés pour tous dire la même chose. Or, ils ne se sont pas concertés pour tous dire la même chose.
Non, mais c'est l'esprit dans lequel tous ils étaient. Oui, mais c'est la vérité. C'est pourquoi il est dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Tu te souviens ce qu'on vient de dire? On dit que le vrai problème de l'homme, c'est ce qui s'est passé avec Adam. Finalement, quand on discute avec les gens, c'est toujours le même problème. J'ai souvent donné le processus suivant. Il commence d'abord par contester un homme, soit les pasteurs, soit d'autres des pasteurs. Ensuite, ils contestent les frères aussi, l'église. Mais ensuite, ils vont plus se limiter qu'à une église, mais à tous les chrétiens. Et viendra un jour, ils vont attaquer la Bible. C'est toujours le processus, parce que le vrai problème, en fait, c'est Dieu. Mais comme on ne peut pas dire « je me rebelle contre Dieu », on va utiliser les noms de ses représentants. On commence par un homme. Parce que nous tous, nous avons connu des pasteurs qu'on ne trouvait pas bons. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé plus tôt? On les a critiqués pendant un temps. Mais dès qu'on les a quittés, on s'est rebranché sur Jésus. Voilà. Si un homme, c'était ton problème, c'est pas Jésus ton problème. Mais vous allez voir ces gens-là. Mais oui, mais on va leur dire, d'accord, vous avez quitté ce pasteur-là. Vous trouvez qu'il n'était pas conforme. Mais vous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Où est le lien entre quitter un pasteur et retourner en boîte de nuit? Ça n'a aucun sens. Donc, rebranchez-vous sur le Seigneur et suivez le Seigneur. Voilà, parce que l'intérêt, c'est suivre le Seigneur, c'est pas suivre une église. Mais on va voir que, nous, on est fatigués, tout ce qu'on a su. Mais oui, mais tu es fatigué d'un homme. Toi, reviens sur Jésus. Non, en réalité, c'est la rébellion face à Dieu qui se manifeste ainsi, quoi. Voilà. C'est une affaire profonde, cette rébellion face à Dieu. Moi, je vous dis la vérité. Mais c'est quelque chose en tant que pasteur ou bien en tant que serviteur de Dieu. S'il y a le combat le plus grand auquel j'ai à faire face moi-même personnellement, c'est cette rébellion-là face à Dieu. Parce que c'est en nous, on a hérité d'Adam. Maintenant, quelqu'un dira, mais ce n'est pas une rébellion où on dit, je suis contre Dieu. Mais il y a des moments où, quand je vois par exemple la souffrance sur la terre, je dis à Dieu de m'enlever par exemple, alors que je sais que ce n'est pas son plan. Mais c'est une forme de rébellion. Donc on a en nous quelque chose qui s'oppose à Dieu, qui veut dire mais non, tu ne fais pas bien les choses. Et on doit lutter pour dire non à cette chose-là. Dire non, c'est Dieu qui est Dieu et je me soumets à lui. Oui.
Oui, pasteur, je voulais savoir, quand un chrétien accepte Christ, le règne de Dieu vient de façon automatique ou c'est quelque chose que le chrétien doit entretenir?
Il doit renouveler ça. Voilà, il doit renouveler le règne de Dieu. D'ailleurs, il nous a donné la prière pour ça. Il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, parce que Dieu nous a laissés toujours libres. Malgré le fait qu'il a fait une alliance avec nous, Il nous laisse libres de rompre cette alliance-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que puisque nous n'avons pas prié ainsi, que nous avons rompu l'alliance. Non, mais en ne priant pas ainsi, en nous-mêmes, nous n'avons pas, réclamé ça. Donc, dans notre présent, nous sommes quelqu'un qui ne réclamons pas le règne de Dieu et on sera tenté de faire ce qu'on veut. Donc, on doit se souvenir que Dieu seul est Dieu. C'est très important. Quand vous lisez l'histoire de David, c'est de cela qu'il s'agit à tout moment. Se souvenir que Dieu seul est Dieu. C'est ça notre sécurité. Renouveler toujours cette alliance-là en disant que ton règne vienne. Oui, dans ma vie.
Pasteur, tout à l'heure, tu faisais un rappel des besoins de l'homme. Et en fait, ces besoins ne sont pas vraiment des besoins, ce sont des faux besoins. Le besoin de régner, le besoin de se marier, le besoin d'avoir des enfants, le besoin, c'est pas forcément... C'est, si le Seigneur dit « Recherchez mon royaume premièrement », ça veut dire qu'en fait, c'est d'abord sa présence qui est notre besoin en réalité. Le reste, c'est secondaire.
Oui, oui, mais c'est secondaire, mais c'est ce qui attire l'homme. On peut appeler ça désir. Voilà, après on peut faire une différence entre désir et besoin. Les besoins sont comme indispensables. Mais même ce qui paraît comme indispensable aux yeux de Dieu, c'est secondaire, puisque Dieu peut te donner ça. Donc il veut d'abord que tu saisisses la source, ce qui est lui-même. Donc qu'on appelle ça désir ou besoin, Dieu reste la source. Alors pourquoi ne pas se brancher à la source et perdre son temps à chercher le besoin lui-même, et c'est là qu'on finit par embrasser le diable. C'est ça que Dieu veut dire, quoi.
Oui, c'est ça, en fait. C'est oui. le fait que les besoins... j'arrive pas à expliquer ce que je veux dire. Les besoins, en fait, c'est comme un faux semblant ou comme un trompe-l'œil ou comme une excuse que l'homme se donne, en fait.
En réalité... Parce que si vraiment le règne de Dieu est dans sa vie, il criera à Dieu. Mais lui, il va dire, mais comme les enfants d'Israël, j'ai lu un passage de Jérémie où ils disent, ah oui, depuis que nous prions la reine du ciel, nous avons la pluie, nous avons la... Donc ils vont donner, mais quand on priait Dieu, on n'avait pas tout ça. Donc ils vont faire de cela une excuse pour dire, mais nous étions avec l'Éternel, mais on n'avait pas le pain, on n'avait pas la pluie. Depuis que nous prions le faux Dieu, la reine du ciel, nous avons tout ça. Donc c'est vrai que les humains vont utiliser ça comme argument, mais ils sont dans l'erreur totale, ce n'est qu'un prétexte. En réalité, leur cœur ne veut pas de Dieu, dans la façon de Dieu de faire. C'est ça qui est profond en nous. En réalité, notre problème, c'est que nous refusons que Dieu fasse comme il veut. On veut être son égal. C'est ça la racine du péché. Et si on ignore ça, on va croire qu'on est devenu bon chrétien parce qu'on ne vole pas, on ne ment pas. Mais en réalité, c'est parce que peut-être on est dans des conditions qui ne nous amènent pas vraiment à faire les mauvaises choses. Mais si Dieu ne règne pas, tôt ou tard, nous reviendrons aux mauvaises choses. Parce que c'est le règne de Dieu qui nous donne la victoire sur le règne du péché et du mal. C'est le règne de Dieu. Oui.
Ma question est de savoir par rapport à Ésaïe 44 qu'on avait lu hier au verset 8. On avait dit au verset 8 que vous êtes mes témoins. Et quand on voit d'autres religions utilisent ce passage pour dire que c'est la religion des dieux. Et on les repousse dans nos maisons quand ils viennent enseigner la parole de Dieu, par exemple. On ne se rivalise pas à Dieu.
Vous êtes mes témoins.
Ouais,
mais là, il parle aux Juifs, là. Ah oui, Ésaïe 44, il parle aux... Donc, on peut lire au début, tu vas voir. Il ne parle pas aux témoins de Jéhovah. Ils n'existaient même pas. Les témoins de Jéhovah, ils ont commencé en 1800. Donc, c'est au plus tôt. Ils n'existaient pas encore. Ésaïe 44, verset 1er. « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. » Là, il parle aux Juifs. Donc, le chapitre, il parle aux Juifs et il leur dit, donc, il leur montre que c'est eux qui ont le véritable Dieu, qui n'est pas une statue, qui n'est pas ces choses-là. Maintenant, les TJ, les témoins de Jéhovah, déjà la source, c'est un escroc qui a fondé tout ça. Donc, parce qu'on reconnaît aussi l'arbre à sa source. Donc c'est un escroc qui a fondé tout ça. Et même parfois, on a des problèmes avec les adventistes parce que c'est vrai que d'une manière simple comme ça, on risque de ne pas trouver les erreurs chez les adventistes, à part l'histoire de Sabbat. Mais quand on sait que ça a été fait, fondé ce mouvement-là par des prophètes menteurs, des gens qui ont prophétisé la fin du monde, que ça n'a pas marché, on se dit non, la source n'est pas bonne. Déjà, la source du mouvement n'est pas bonne. Et le témoin de Jéhovah, pareil, c'est un franc-maçon qui a fait ça. Vous savez, le tombeau du fondateur des témoins de Jéhovah se trouve dans le siège des francs-maçons, dans leur enclos.
Ma deuxième question était de savoir, toujours par rapport au verset qu'on avait lu hier, Chronique 16 au verset 22. « Ne touchez pas à mes oins. » Souvent, des serviteurs de Dieu, quand ils font quelque chose, moi, je connais même un dans mon pays, il a escroqué un ministre. Lorsqu'on voulait lui interpeller, il s'est justifié, « Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas mal à mes serviteurs. »
Mais si on est serviteur de Dieu, mais si on est un escroc, on n'est pas un oin de Dieu. Donc, on touche aux escrocs. Au contraire, la Bible dit que le magistrat, quand il prend son épée pour faire la justice, il est un instrument de Dieu pour... Mais il faut comprendre qu'on a écrit « Ne touchez pas mes oins là ». Donc, on parle de tous les enfants d'Israël. Hein. On ne parle pas de personnes spéciales. Après, on dit « Ne touchez pas mes prophètes ». Ça, c'est des personnes spéciales. Mais quand on a dit « Ne touchez pas mes oins », le contexte, c'était les enfants d'Israël. Voilà, c'était les enfants d'Israël. Et ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous dire la vérité. Donc, on peut se dire la vérité. Dire que ce qu'un homme, un serviteur de Dieu fait, c'est un mensonge, c'est faux, ce n'est pas mauvais. Mais on n'est pas en train de taper le serviteur de Dieu sur lui, on n'est pas en train de l'injurier. On dit tout simplement que ce qu'il a fait n'est pas bon. Donc beaucoup de faux serviteurs africains et américains utilisent ça pour qu'on ne les critique pas, pour qu'on ne cherche pas la fausseté, pour qu'on ne dénonce pas la fausseté qu'il y a dans leurs œuvres. Non, on peut dénoncer les mauvaises œuvres. On a le droit de le faire. D'ailleurs, Paul nous exhorte à dénoncer les œuvres mortes. Oui.
Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu dis que l'être humain devient de plus en plus, enfin même la Bible dit, individualiste, égoïste, centré sur lui-même. Mais à côté de ça, ça ne le dérange pas plus que ça qu'on lui dise ce qu'il a à faire, qu'on lui dise sa façon de penser, qu'on lui dise, bah, par exemple... Enfin, je pense à des organisations comme l'ONU, tout ça. Enfin, moi, je sais pas, l'ONU, ça me rappelle un peu la Pax Romana, tu vois.
Effectivement, ouais. L'ONU, c'est comme la Pax Romana, oui, mais le but de l'homme, c'est quoi? Il veut pas de problème, comme ça, il va faire ses bêtises tranquillement. Parce que s'il doit faire ses bêtises après qu'il y a la guerre, ça va tout gâcher. Donc l'ONU, tout ça, ça permet qu'on ait une paix. Même certains, vous savez, aujourd'hui, vous parlez du mariage pour tous à quelqu'un, mais laissez-les faire ce qu'ils veulent. Au fait, ces personnes-là ne veulent pas de troubles. Ils veulent, parce qu'il n'est pas, il est contre peut-être le mariage pour tous. Mais c'est dit, si on commence à être contre là, ça va faire des troubles. Donc moi, je vais être tranquille. En réalité, chacun vit pour lui-même. Quoi. Alors, c'est ça. C'est ce qui fait qu'on va leur dicter les mauvaises choses. Parce que ces choses-là qu'on leur dicte sont des conditions de paix. Et comme ils veulent une fausse paix, pour bien faire leurs bêtises, ils vont accepter ce qu'on leur dicte. C'est leur convoitise qui les amène à cela. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc nous allons clôturer en disant merci au Seigneur de nous révéler que notre vrai problème est celui-là, de refuser sa souveraineté sur nos vies et prendre la décision de le laisser être souverain une fois de plus au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous avoir révélé que notre problème était un problème de souveraineté de toi sur nous, que nous puissions accepter ta souveraineté sur nos vies, ne pas chercher à nous inventer nos destinées, ne pas chercher à nous inventer nos propres pasteurs, nos propres enseignants, mais accepter ce que tu nous envoies. Accepter ta parole telle qu'elle est écrite dans la Bible. Aide-nous, Seigneur, à accepter, à nous soumettre les uns aux autres. C'est comme ça aussi qu'on se soumet à toi. Aide-nous, Seigneur, à accepter le chemin par lequel tu nous fais passer, car tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. À discerner ton message à travers les événements de la vie, à travers les événements liés à des difficultés parfois, mais contenant ton message, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Nous te confions la journée de demain, le message de demain, que ça continue à nous interpeller pour nous amener à céder à toi et à vivre une vie épanouie de liberté et de gloire. Car là où ton règne se trouve, c'est là que se trouve la liberté. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain à 10h.